Bonjour, aujourd'hui je suis avec Ben et Mel du blog The Wandering Freelancers. On fait une interview autour du nomadisme digital à nouveau. Leur particularité, c'est qu'ils sont, ils voyagent en couple et on va aborder également leur métier de freelance pendant cette interview. Donc, salut Ben et Mel.
Salut Zis.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi et comment vous êtes devenu digital nomade?
Pourquoi? Parce que nos métiers nous l'ont permis très rapidement. Mélanie sur la partie direction artistique, vidéo, et moi sur la partie plus web. En fait, au travers d'une première expérience professionnelle, j'ai réussi à avoir un télétravail. Donc ça, c'est vraiment pour mon expérience. Et donc, j'ai pu travailler depuis chez moi avec simplement un ordinateur. Et c'est là qu'a démarré la partie digitale.
Voilà, on était déjà dans le domaine du digital à ce moment-là. Et après, on s'est plus posé la question du nomadisme. Mais ça, c'est venu vraiment dans un second temps. Quand on était déjà bien installé en tant que freelance, quand on a... on voulait être freelance pour avoir plus de liberté, mais ce n'était pas forcément la liberté de mouvement à la base. C'était plus de la liberté, le fait de ne pas avoir de patron, le fait d'être à son compte, de gérer son temps comme on le veut.
La liberté d'entreprendre aussi,
ouais, de travailler pour soi.
On avait envie.
Ouais. Ouais. Et après, par contre, il y a un an et quelques, on a voulu plus de liberté de mouvement. On s'est dit qu'on n'utilisait pas notre statut de freelance à juste titre. C'est-à-dire qu'on restait...
Son plein potentiel.
Voilà, son plein potentiel. Et qu'on restait un peu trop figé sur... qu'on campait un peu trop sur nos acquis. Et on s'est donné comme défi donc, de faire le tour de l'Europe en van avec notre chat qui est juste là, qui dort.
À côté, il dort.
Et donc voilà comment on est devenu digital nomade. Là, on a passé un autre gap à ce moment-là.
Ouais.
Et donc, ça a mis combien de temps entre vos débuts en tant que freelance, en tant qu'indépendant, et le moment où vous êtes parti faire ce tour d'Europe?
Ça a bien mis 5 ans.
4 ans.
Ouais, 4-5 ouais, ans. 4, il y a eu quand même plusieurs étapes. Hein. On a habité à Paris, j'ai travaillé sur ton entreprise. Mel, elle a commencé son statut de freelance et a travaillé pour des clients de son côté. Puis après, moi, j'ai eu mon télétravail. On s'est dit qu'on allait bouger de Paris. Donc, c'est un niveau faible de nomadisme, mais on est parti à Bordeaux, en fait, tout simplement.
Ouais.
Là, on a eu une vie différente et on s'est dit, si on a fait ça, pourquoi on ne va pas plus loin?
Quitte à travailler tous les jours depuis Bordeaux, on pourrait en fait être n'importe où. Ça ne poserait aucun problème parce qu'on est à deux, on travaille dans le même domaine. Ça poserait problème ni à l'un ni à l'autre. Quand on est les deux à être digital nomade, dans le digital, c'est compliqué après de ne pas passer nomade parce qu'il n'y a plus de barrière en fait. Donc, à part le chat, il n'y a plus vraiment de barrière. Voilà.
Et est-ce que vous avez, quelle est votre envie par rapport au voyage? Est-ce que vous êtes plus à voyager deux semaines par-ci, deux semaines par-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre mode de voyage, le mode de voyage que vous avez choisi?
Le mode de voyage, jusqu'à ce qu'on découvre le digital nomadisme, il était le voyage de un peu monsieur tout le monde. On était plutôt à prévoir des vacances dans l'année, à sélectionner un endroit où partir, prendre l'avion et aller en profiter. Mais avec notre travail de digital, de nomade numérique, on s'est rendu compte que on savait plus la même saveur et qu'il fallait qu'on trouve d'autres moyens de voyager et de continuer de se faire plaisir. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de Tour d'Europe qui était une grande première pour nous. On n'avait jamais voyagé au long cours, faire du slow travel, se poser dans des endroits. Et donc, pour cette expérience en particulier,
oui, pour l'Europe,
ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déplacé de pays en pays, souvent sur des périodes assez longues, 2-3 semaines, 1 mois.
On voulait vraiment vivre au rythme du pays, vivre au rythme des habitants, pourquoi pas aller travailler dans leur café, vraiment vivre avec eux, prendre le transport en commun le matin. Donc c'était sur un mode de voyage assez lent, assez comment dire, C'est reposant sans être reposant, mais c'est pas du voyage comme là, par exemple, quand on s'en va aux États-Unis dans une semaine. Là, ça va être du voyage, on va bouger tous les jours, ça va être du voyage sportif. Donc ça, c'est un nouveau défi aussi pour nous. Donc on va dire que pour l'instant, on varie les modes de voyage.
On est finalement qu'à nos débuts de digital nomade. Hein. Voilà, on a fait un an, effectivement, c'est assez long, mais c'était une expérience particulière. Et là, on part sur d'autres modes. De voyage.
Et votre tour d'Europe en van, vous dormiez dans votre van?
Alors non,
on a mixé les manières de.
Parce qu'on a, on est parti un peu à l'arrache, donc on a aménagé le van, mais pas comme on aurait dû. Donc on l'a aménagé avec juste un lit derrière. Donc il n'y avait pas de kitchenette, il n'y avait pas de douche, il n'y avait vraiment rien. Ouais. Et on est parti avec un gros chat, un Maine Coon de 8 kilos qui prend la place. Et on ne lui avait pas non plus prévu de trucs pour lui, de trappes ou de. Enfin bon, en
c'était
gros,
pas aménagé pour lui.
C'était pas assez bien aménagé pour y vivre avec un chat. Donc on louait la plupart du temps des appartements. On laissait le chat dans l'appartement quand on voulait se faire un long week-end et nous, on allait profiter du van à ce moment-là. Mais sinon, on était la plupart du temps dans des apparts.
Ouais. En fait, Ernest, le van, c'était notre moyen de transport et de transporter nos affaires et notre chat jusqu'à un point qu'on jugeait assez central, souvent une capitale, enfin une capitale à certains moments ou des villes ou des régions touristiques où il y avait des choses à voir. Et depuis là, on essayait de rayonner avec le van pour aller faire des week-ends, en tout cas des 2 jours, des 3 jours,
dans les environs
où on pouvait dormir dans le van.
Voilà. Et votre van, comment vous vous êtes renseigné pour savoir comment l'aménager?
Mais en fait, maintenant, on en rit parce que cette année, on a justement, en voyageant en van, c'est là qu'on a découvert vraiment Instagram et vraiment des comptes de vanlifers pro, j'ai envie de dire, où là ils ont des vannes de fous hyper bien aménagées. On a découvert qu'il y a plein de gens qui faisaient ça et qu'il y a aussi plein de gens qui faisaient ça avec un chat alors qu'on pensait être genre vraiment les seuls. Et on s'est rendu compte de tout ça quand on voyageait. Et donc nous, pour l'aménager, en fait, c'est mal. On s'est peu ou pas renseigné.
On a fait ce qui nous semblait faisable à notre niveau. On a acheté des planches de bois, on est allé chez le roi Merlin, on bricole des pots et voilà. Et on a fait.
On a tapé comment isoler un van, et voilà, on a isolé les parois, mis du lino, mis une structure, mais un peu à l'arrache, honnêtement. Voilà, un peu trop à l'arrache. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure.
Bah, complètement. Et là, pour les États-Unis, vous repartez en van?
Alors non. On ne repart pas en van, on part sur un achat de véhicule là-bas. On aimerait acheter à Montréal un 4x4, une sorte de 4x4 SUV pour dormir à l'arrière quand on en a envie et pouvoir donc avoir une tente et bivouaquer aussi quand on en a envie. Donc ce serait là plutôt sur un mode 4x4 tente, quoi. Un juste milieu entre les deux. On ne voulait pas reprendre le van parce qu'on voulait vraiment tester ce côté camping. Dehors, à l'extérieur, en pleine nature. Et on voulait aussi tester le couchsurfing, à voir si on était capable. Qu'est-ce que ça faisait d'aller loger chez l'habitant, d'être proche des habitants? Parce que ça aussi, c'est un de nos regrets. On aurait préféré, avec le chat, c'est toujours un peu compliqué, mais faire ça en Europe. Et là, du coup, on va vraiment pouvoir expérimenter plein de nouvelles dimensions pendant ces 3 mois.
Cool. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de votre chat? Je suis très intriguée parce que moi, ça... Ah, si tu peux le montrer, c'est trop bien.
C'est un nouveau bail, Charlie.
Non, elle n'est pas content, par contre.
Mais si. Oh là là. Bah, hier, il nous a... Il a subi une journée de voiture parce que on était...
Oh, il est trop beau. C'est vrai que c'est un gros chat. Hein. Ah là là.
Oui, non, mais oui, il n'est pas, quand je dis qu'il n'est pas petit, c'est, ouais, il est vraiment encombrant, quoi. Il prend la place d'une personne dans le lit. Hein.
Et donc, moi, ça m'intéresse le sujet du chat parce que personnellement, une des choses qui m'a beaucoup manqué là, cette année dans mon voyage, c'est les animaux. Moi, j'ai grandi avec des animaux dans mon jardin, dont des chats et un chien, hein, à la fois. Et aujourd'hui, je ne me vois pas avoir ni un chat ni un chien parce que je sais que je vais bouger et que je ne veux pas devoir le laisser et que ça me paraît compliqué de voyager avec. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Bah, vous en êtes la preuve avec un chat. Donc, j'aimerais vous demander comment vous voyez ça et comment vous vous débrouillez justement avec votre chat.
C'est la question de ces dernières semaines, oui. De ces derniers mois parce qu'on a, on est parti avec un premier projet, ce Tour d'Europe. Où on l'a complètement inclus parce qu'on savait qu'on allait faire voilà, un voyage lent avec des points de chute physiques, des appartements. Et on s'est dit qu'on lui avait déjà fait faire quelques petits trajets. Il prenait déjà assez souvent la voiture avec nous et que pour l'instant, ça se passait bien. Donc, on allait aller jusqu'au bout de ce voyage. Mais maintenant qu'on a cette fièvre voyageuse et qu'on a envie d'aller encore plus loin, de faire plus de choses, forcément, ça nécessite des modes de transport moins adaptés aux animaux de compagnie. Et donc, là, pour notre voyage aux États-Unis, il reste chez les parents de Mélanie. Là où
d'accord.
C'est pour ça qu'on est arrivé hier, parce qu'on le laisse ici avant de partir. Donc, ça nous fait un petit pincement au cœur.
Mais, un petit pincement au cœur, t'es gentil. Ça nous rend un peu malade, mais bon.
Et donc, voilà. Et donc, pour les prochains voyages, parce qu'on commence déjà à y réfléchir, on se demande comment on va faire, parce qu'on veut l'inclure au maximum. Et très certainement qu'on va essayer d'adopter un mode de voyage partagé, entre guillemets, avec des voyages assez proches, peut-être toujours autour de l'Europe ou accessibles en voiture, et donc avec Charlie, et de temps en temps des voyages plus loin où on prendra l'avion et on espère continuer de pouvoir le faire garder par mes parents.
Mais c'est vrai que quand on prend un animal de compagnie et qu'on voyage déjà, dans ce cas-là, il faut être capable de l'intégrer comme vraie composante de notre voyage et de se dire que il va pas forcément nous suivre, mais qu'on va faire des choses ensemble. Et ça, pour certaines personnes, c'est dur parce que de nos jours, on a envie de voyager loin, de voyager sur des modes un peu roots, un peu, toujours plus d'aventure en fait. Et voilà, et ça avec un animal, bon, encore avec un chien, j'imagine que c'est faisable, mais il faut quand même aimer mettre son chien en soute, après, le laisser dans un camion, dans une voiture, c'est assez compliqué et avec un chat, c'est d'autant plus compliqué.
Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients quand même.
Oui,
chat, il est plus indépendant et il a moins besoin de nous. On peut le laisser effectivement une journée dans un appartement, il ne va pas.
Oui, il va
deux jours, il ne va pas nous en vouloir. Mais à l'inverse, on ne peut pas lui demander de nous suivre quand on a besoin. Si on doit passer une journée en ville et qu'on n'a pas de logement en dur, encore une fois, ou qu'on n'a pas un grand van pour le laisser, on est bloqué. Alors qu'avec un chien, on pourrait le prendre avec nous, aller se balader en ville, c'est faisable.
Mais j'ai envie de dire que c'est la même chose que d'avoir un enfant et de continuer à voyager. On sait que ça va être il faudra composer. Voilà, il faudra trouver des solutions. Après, il y a toujours des solutions.
Ouais. Bon, l'enfant, tu le mets pas en soute, ça.
Mais c'est l'enfant, pareil. Il pourra très vite donner son avis. Ouais.
Mais on peut faire moins d'activités physiques, on peut faire moins de. Ouais, on peut peut-être partir moins à l'aventure, je ne sais pas. On va aller traverser la vallée de la mort avec un enfant où tu sais, il va faire 45 degrés. Tu ne peux pas le prévoir dans ton voyage finalement. C'est un peu pareil avec des animaux, il faut savoir composer. Mais en tout cas, c'est possible. On l'a fait cette année, ça s'est super bien passé.
Ah oui, ça s'est vraiment bien passé.
Et puis on en voit d'autres. Il y a plein de van lifers qu'on suit qui ont un chat dans leur van. Ça se passe très bien. Pareil pour les chiens. Je pense que c'est pas bloquant. Après, il faut choisir ses voyages aussi.
Ouais. Donc, si j'ai bien compris, le chat s'appelle Charlie.
Oui.
Et le van s'appelait Ernest.
Exactement.
Tout à fait. D'accord. OK. J'aimerais bien qu'on revienne sur vos métiers, puisque il ne faut pas l'oublier, les nouveaux travailleurs, c'est aussi de l'épanouissement professionnel. Donc, la partie pro m'intéresse aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus en détail ce que vous faites chacun, comment s'appelle votre métier et en quoi ça consiste pour des gens qui n'y connaissent rien?
Alors, ce qu'on fait chacun, c'est avant tout ce qu'on fait ensemble, parce qu'on est à nous deux une agence de communication. Mmh. En fait, on a développé depuis maintenant 2 ans. Donc, on travaille souvent pour les mêmes clients, le plus possible en tout cas. On essaie d'avoir des projets qui sont globaux dans lesquels tous les deux on peut intervenir. mais on a effectivement des spécialités différentes, bah, surtout pour de la complémentarité finalement et pour pouvoir proposer plus de choses à nos clients. Donc ça tombe bien. Je vais parler pour moi et elle expliquera ce qu'elle fait. C'est le couteau suisse de l'agence. Moi, je m'occupe de, principalement de la gestion de campagnes publicitaires pour mes clients, pour nos clients. Donc, gestion de campagnes publicitaires en ligne, la publicité qu'on voit partout quand on est sur un site ou quand on a vu une paire de chaussures sur Zalando et qu'après, elle nous poursuit sur tous les sites qu'on visite. Bah, ça fait partie de voilà, mon métier, de ce que je fais. En plus de tout l'aspect web marketing, donc voilà, l'amélioration de la visibilité d'un site sur Internet.
On va dire qu'il s'occupe de tout l'aspect commercial et marketing. Et moi, je fais toute la partie créa et artistique, qui pour moi est plus sympa, mais après, ça dépend les points de vue.
Moi, je ne suis pas douée, donc pour moi, c'est pas sympa.
Pour moi, je fais l'aspect ludique du métier, donc ça me va. Moi, je fais surtout du web design. À la base, j'étais dans la vidéo. Et peu à peu, j'ai bifurqué dans la créa et dans le design graphique parce qu'il y avait beaucoup de demandes dans ce milieu-là. J'avais beaucoup de connaissances qui me demandaient « Oui, mais avec tes études de communication, est-ce que tu ne peux pas faire ci, faire ça ?» Et ça se rapportait toujours au web. Du coup, bah, au fur et à mesure, j'ai un peu délaissé la vidéo et je me suis spécialisée en web design. Donc maintenant, je crée des sites internet, des designs de sites internet, des identités visuelles et après, tout ce qui se rapporte à la création en général, la création graphique. Ça peut être la création de bannières, enfin, tout ce que fait un graphiste. Voilà.
Et est-ce que vous... quand vous vous êtes lancé en indépendant, est-ce que vous aviez déjà travaillé en entreprise avec ces métiers-là?
Oui.
Oui. On a tous les deux une des expériences professionnelles. Mélanie a un peu moins travaillé sur la partie qu'elle fait aujourd'hui. Elle s'est formée finalement en dedans. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui m'a formé à une grande partie de ce que je fais aujourd'hui, même si pareil, je me suis formé à d'autres outils, à d'autres travaux plus spécifiques. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance de faire 3 ans dans une start-up parisienne dans laquelle j'ai fait 2 métiers en l'occurrence. Et le dernier était celui que j'exerce en grande partie aujourd'hui.
Et Mélanie, comment tu as fait pour te former justement en plus de ton expérience pro?
Comment j'ai fait pour me former? Moi j'ai fait une école de communication qui formait un peu à tout. On nous apprend à, enfin après on peut se spécialiser dans ce qu'on veut, mais on nous apprend un petit peu à faire de la vidéo, un petit peu le design graphique, un petit peu le marketing, enfin bon, un peu tout. Et donc j'avais déjà les bases, donc quand j'ai voulu bifurquer dans ça, j'avais des petites bases de web design. Et par contre, je n'ai pas suivi de formation. Enfin, je les conseille maintenant, mais je n'ai pas suivi de formation en ligne ou des choses comme ça qui peuvent maintenant être super utiles. À l'époque, j'ai vraiment appris sur le tas, c'est-à-dire que de mission en mission. En fait, j'ai d'abord travaillé pour des proches, l'entourage. Une fois les projets finis, en fait, j'apprenais à chaque fois. Je montais en compétences et je cherchais toujours à savoir faire plus. Et de projet en projet, en fait, je me suis un peu formée comme ça et... jusqu'à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui et j'espère que je progresserai encore en fonction des projets qui sont proposés, mais comme ça a été ça a été vachement progressif, il n'y a pas eu de rupture nette ou violente entre les deux métiers, du coup j'ai pas eu besoin de trop de me former, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure.
Comment on peut se dire sans l'avoir jamais testé, ce métier il pourrait être pour moi?
Wow, ça c'est un peu dur. Sans l'avoir testé, ce métier peut être pour moi, c'est un peu dur. On le voit aussi, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a cette recherche en fait d'accès à ce statut plus que d'avoir un métier et d'essayer de le transformer en digital nomade. La plupart, ils cherchent d'un coup un peu la perle rare à se dire bon, mais voilà, je vais tomber dessus, c'est bon, je suis digital nomade, c'est fait, je gagne de l'argent. Ça s'est pas du tout passé comme ça pour nous et je pense que le cheminement, il doit être un peu pareil pour tout le monde. C'est d'essayer de faire un métier qui nous plaît, dans lequel on se sent à l'aise ou dans lequel on a envie de se former en priorité. Vérifier avant qu'il peut être nomade, ce métier. Et aujourd'hui, c'est assez simple. Je pense que beaucoup de métiers, de nouveaux métiers, enfin de métiers auxquels on forme les gens sur, dans les écoles, bah, ils sont faits sur des ordinateurs. C'est bête, mais même un comptable, finalement, avec un ordinateur, il peut être digital nomade.
C'est pas réservé au métier voilà, du web.
C'est pas réservé au métier du web. Donc, se former et puis après, amener son métier vers le nomadisme numérique et parfois à temps plein ou non. On a d'autres amis qui voyagent, enfin, dont un qui travaille pour une entreprise et qui a un télétravail partagé. Il a 6 mois par an le droit de ne pas être dans ses bureaux. Et donc, pendant ces 6 mois, il est digital nomade. Et puis, les autres 6 mois, il travaille dans l'entreprise. Donc, c'est aussi une autre manière de l'être, je
pense. Génial. J'ai jamais entendu ce mode, cette manière de faire.
Souvent, c'est à négocier avec son employeur. Mais oui, digital nomade, déjà, on peut l'être en étant employé, effectivement, avoir un télétravail. On peut l'être en étant à son compte et en ayant plusieurs clients. C'est notre cas, parce qu'on est une agence. Mais on peut l'être aussi en étant son propre patron sans avoir d'autres clients, c'est-à-dire en étant un e-commerçant, par exemple, en ayant une boutique en ligne. On peut l'être en ayant un blog voilà, à succès, avec du trafic. On peut l'être... De différentes manières, on peut l'être en proposant du service, on peut l'être en vendant de la vidéo, en étant sur YouTube, voilà, en étant vlogueur. Aujourd'hui, il y en a qui le font.
Mais c'est vrai que sans avoir testé les métiers, c'est compliqué de se spécialiser et de choisir. On peut toujours partir d'un point de vue assez voilà, global, essayer plusieurs petites missions, petites choses, par exemple dans le web, et affiner par la suite, mais partir d'abord des choses qu'on aime, je pense. Enfin, il ne faut pas à tout prix être à la recherche du digital nomadisme. Enfin, il ne faut pas prendre les choses à l'envers, en fait. C'est important, comme tu le disais très justement avant, l'aspect professionnel et accomplissement professionnel, c'est quand même vachement important. Et il ne s'agit pas juste de voyager et gagner de l'argent. Il faut quand même être bien dans ses baskets. Et enfin, quand on se lève le matin, être content de ce qu'on fait aussi. Certes, c'est bien de voyager, mais bon, la carrière pro, c'est quand même important.
Donc, oui, voilà. Pour l'accomplissement. Mais effectivement, sinon, on pourrait être tout simplement influenceur. Il y en a aujourd'hui qui pensent que c'est un métier qui est accessible en deux coups de cuillère à peau. On travaille 2 mois et hop, on gagne de plein d'argent. Ben, ce n'est pas le cas. Enfin, ceux qui sont là, ceux qui en vivent, ils ont beaucoup travaillé pour ça. Finalement, donc, au départ, c'était un travail, quoi. C'est un travail avant d'être juste du kiff et de profiter. Voilà, essayer de travailler, trouver sa voie peut-être d'abord, on conseillerait ça.
Je suis complètement d'accord, c'est très intéressant. Mélanie, j'ai quand même une question à rajouter à ça, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé, des personnes qui s'intéressent au métier créatif du web, mais qui se demandent comment est-ce que je sais que j'aurai du talent. C'est comme ça que ça m'a été formulé. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette question ?
Alors, talent, c'est-à-dire comment s'il se sentirait doué dans ce qu'il ferait.
Voilà, je pense qu'on peut le traduire comme ça, oui.
Plus que du talent, moi je parlerais plus de confiance en soi, parce que je sais pas si j'ai énormément de talent. Enfin, même au jour d'aujourd'hui, tu vois, là, après 5 ans, je peux pas dire je suis sûre d'avoir du talent. Enfin, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que pour tout ce qui est confiance en soi, estime de son travail, etc., ça vient en faisant, je peux dire que j'aurai d'autres, mais avec les premières missions, tu as tes premiers clients contents, pour qui ça marche, que tu as aidé dans leur démarche. Parfois, quand tu crées des identités visuelles, en fait, tu matérialises leurs pensées, en fait, et si tu leur crées un petit bébé physique et ça les, enfin voilà, ça les touche. Il y en a, j'ai eu des super bons retours. J'en ai d'autres pour qui le site internet c'est un super levier, ça marche hyper bien. Enfin, donc après, ça vient avec la reconnaissance, le fait qu'on sache qu'on a du talent et qu'on gagne la confiance en soi. C'est surtout grâce aux autres, en fait. Donc, je leur conseillerais de faire. Et dans tous les cas, même si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra au fur et à mesure. Ils réajusteront le tir, ils seront de plus en plus compétents au fur et à mesure des missions et ils apprendront
ça sur s'apprend, le tas, ouais. Quoi. Finalement, ça reste un métier qui s'apprend.
Il faut avoir une fibre artistique, voilà, c'est sûr que... Oui, après, ça, on le sent.
Mm-hmm. Ça, on le sait peut-être avant de se lancer.
Moi, je me suis jamais posé la question.
J'ai un esprit plus mathématique. Donc, je me suis orienté finalement naturellement. Ça m'a paru normal de ne pas me retrouver
graphiste.
C'est pour
ça que si déjà ils ont l'envie, c'est qu'ils doivent déjà avoir la fibre en eux. Donc, ils ne se posent pas la question du talent. Ça viendra. Enfin, les compétences, elles viennent au fur et à mesure.
Déjà, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que vous pourriez nous raconter à quoi ressemble votre quotidien, enfin votre quotidien par jour, par semaine, ça, quand vous voyagez?
Quand on voyage, si on reprend notre tour d'Europe, parce que c'est l'expérience qu'on a pour l'instant, c'est celle-ci, c'est une organisation par jour qui est pas tous les jours la même, parce que c'est en fonction
en fait,
de
notre réponse
ne
va pas te plaire. Parce
voilà.
que...
Ça dépend. Ça dépend.
Mais si, tout vrai, me plaît.
Si on essayait de mettre des mots, si on faisait une moyenne de ce qu'on a fait sur l'année, je pense qu'en vrai, on travaille quasiment une demi-journée par jour quand on voyage et qu'on a beaucoup de choses à voir et à visiter. Ça fait l'équivalent de 3 jours pleins par semaine et le reste du temps est dédié aux visites et à la découverte. Ces 3 jours pleins de travail, ils sont des fois ça peut être une journée complète où on va pas sortir parce que on est charrette, on a du boulot, on va pas travailler.
Ça dépend des missions qu'on accepte aussi.
Exactement. Et des fois, on peut avoir besoin de travailler le week-end pour rattraper du retard, et on peut avoir une semaine beaucoup plus légère où on va travailler que 2 heures le matin avant de partir faire des visites parce qu'on est un peu plus léger et qu'on peut se le permettre. Mais on reste quand même assez proche finalement, je pense, en termes de temps de travail sur l'année d'un 25-30 heures, peut-être même 35 heures si. Des fois où on a beaucoup de travail, c'est juste qu'on l'organise différemment. On peut être amené à travailler le week-end.
Voilà, c'est pas régulier en fait. On n'a pas vraiment de semaine type. Comme notre vie, elle change tout le temps de rythme, de décor. Au final, nous-mêmes, on a du mal à trouver un rythme et un sens à tout ça. Du coup, là, par exemple, on a été en France 3 mois et on a essayé vraiment de reprendre une routine un peu bureau, donc de travailler le matin, l'après-midi. Mais c'est vrai qu'en Europe, on n'avait pas trop ça, en fait. On se levait le matin, bon, bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On visite, on voyage, donc bon, c'est... Mais tu le disais toi-même dans tes articles, c'est un peu dur quand tu es dans un pays étranger de trouver le rythme parce que t'es tout le temps tenté. En plus, toi, t'avais des gens avec toi qui te demandaient de faire des activités, etc. Et bon, nous, rien qu'à deux, on s'embrigadait pour visiter, faire des randos. Le rythme est vraiment différent en fonction de nos périodes de vie.
Mais on
et
a
là,
essayé.
En États-Unis, il va être encore différent.
Je me souviens qu'on a essayé en se disant, voilà, on va faire ça comme ça. Tous les matins jusqu'à 13h on travaille, après on est libre et ben, on s'est
rendu compte que sens,
ça
n'avait
en fait. Pas de sens.
Parce que déjà il faut jongler avec la météo, il faut jongler avec les périodes d'affluence des lieux, il faut
puis les horaires d'ouverture de certaines activités, la distance pour aller rejoindre un lieu de visite, donc on s'est organisé différemment.
Donc finalement, votre quotidien était plus organisé autour de la partie voyage, donc voir ce que vous aviez envie de visiter, à quelle heure c'était le mieux d'y aller, y aller quand il faisait beau, et finalement d'imbriquer le boulot là-dedans.
Mais pas vraiment.
Hein.
Oui, mais sauf qu'il y a d'abord, il y a d'abord ce qu'on acceptait comme travail. En fait. Il y a d'abord cette, enfin ça c'était en amont, et donc on savait en fait. Le volume de travail moyen qu'on aurait à peu près. Et donc, en fonction, on disait, bon, mais on aura le temps de faire ça, ça, ça et ça. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on organisait nos journées et on prévoyait notre semaine.
On a accepté beaucoup moins de missions.
Mais voilà, on a accepté moins de missions. Donc, forcément, ça nous a libéré du temps et permis de…
On gagnait moins d'argent, mais du coup, on avait plus de liberté.
Vous gagniez moins d'argent, mais c'était quand même suffisant pour vivre ce mode de vie.
En Europe, la France et l'Allemagne et les pays nordiques, on reste très cher, alors que nous, on a fait tout l'inverse, donc tout le reste. Donc, on avait un bon niveau de vie, en fait, avec ce qu'on gagnait.
Alors que pourtant, on a loué du Airbnb, qui est la location saisonnière qui est plus chère, mais on s'est retrouvé dans des endroits où c'était plus abordable que chez nous. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire la même chose uniquement en France ou en faisant les pays nordiques.
On s'en est rendu compte en revenant en France. Là, pendant ces 3 mois, on a cherché un logement Airbnb. Mais en fait, on ne peut pas faire ça en France. Ce n'est pas possible.
C'est pas le même budget.
Non, c'est pas pareil. Là, t'es déçue. Il dit, bon, je vais rester en Grèce. Hein, écoutez. Ça donne pas envie de revenir, c'est sûr.
Et donc, vous nous avez parlé de votre tour d'Europe d'un an, de votre voyage les 3 prochains mois aux États-Unis. Si j'ai bien compris, entre les deux, il y a eu 3 mois en France.
C'est ça.
Tout à fait. Oui.
OK.
Début janvier et on repart 1er avril.
OK. Et après les États-Unis, est-ce que vous vous êtes déjà projeté sur d'autres voyages ou vous en restez à ces 3 mois?
Ah non, on ne va pas en rester à ces 3 mois.
On s'est projeté. Enfin, de toute façon, on se rend compte que quand on est dans ce cycle et qu'on voyage, on a envie.
Ça fait
boule de neige, on continue. Et donc, on a déjà un peu comme mis des options sur les mois qui vont suivre. On sait qu'on rentre le 15 juillet et que là, on va se reposer un peu en France. On va refaire un petit tour de famille. Profiter aussi de l'été ici, parce que c'est tout aussi sympa. Donc, on sera très certainement sur Bordeaux. On a des amis et la famille aussi dans le sud-ouest. Et après, on a un projet le mois d'octobre de cette année, mi-septembre, qui est un projet complètement en dehors de ce qu'on a fait jusqu'à présent et de ce qu'on va faire. On va faire la Vélodyssée, donc, qui est en fait une piste cyclable de 1200 km. En France, le long de l'Atlantique.
On aime bien les trucs un peu farfelus. Voilà. Hein.
Ah, j'adore. Vous m'inspirez trop là. Il faut que je note sur ma liste.
et voilà. Donc, et avec un projet un peu plus complet derrière, un projet qui se rapporte à notre travail. Mélanie le disait tout à l'heure, elle a fait beaucoup de vidéos. Elle a travaillé dans les agences de production vidéo et c'était ses études. Et on aimerait aussi revenir à ça. On espère commencer avec les États-Unis en faisant un peu de vidéo, mais là le projet donc de vélo serait relié à des interviews ou en tout cas tourner des films sur des initiatives écologiques, des petits reportages le long de ce trajet.
Voilà. On aimerait bien en fait en profiter pour découvrir un petit peu plus la France parce que moi j'ai beaucoup voyagé en France, mais Ben il connaît peu notre territoire. Ouais. Du coup découvrir plus la France parce qu'on a quand même un magnifique pays, être en contact avec les gens parce que quand on traverse les petites régions il n'y a rien de mieux que faire des petites maisons d'hôtes, enfin honnêtement en France pour ça ils sont super super accueillants, donc je sais qu'on va se régaler là-dessus et donc le challenge de voyager à vélo, ça nous changera d'un véhicule, c'est sûr, ce sera plus écologique et on va en profiter pour faire donc un plus sportif et pour faire donc une sorte de mini reportage sur les initiatives écologiques de chaque région. Et on voudrait filmer en fait des projets écologiques un peu farfelus, un peu
qui sortent de l'ordinaire
en fait, pour inspirer les gens, pour inspirer, pour interpeller aussi, pour que ça fasse un peu mouche. Voilà, alors ça sort encore nulle part, mais nous ça nous intéresse, du coup on va le faire. Voilà, c'est un jour un projet.
On essaie de relier nos envies, voilà. Il y a du voyage, un peu de côté sportif, une touche un peu de folie.
La rencontre avec les gens. Devoir faire de la vidéo, aller leur parler, ça va nous forcer à être avec les gens. Nous qui sommes un peu parfois trop entre nous en fait,
on travaille
ensemble. Non mais c'est vrai, déjà quand on est digital nomade on peut être isolé, mais quand on est deux digital nomades on est encore plus entre nous et du coup c'est toujours dans l'optique de casser tout ça en fait, d'être avec un peu plus en contact avec les gens.
Ceci dit, cette tendance à c'est pas tellement des digital nomades, je pense que quand on voyage, quand on est seul on va à la rencontre des gens, dès qu'on est deux on a tendance à rester ensemble. Ça demande plus d'efforts de ressortir de cette bulle-là. Mais alors, ce que je trouve génial vraiment là dans ce que vous racontez, c'est je vois vraiment le dessin de votre équilibre. Vous avez commencé par un boulot vraiment de base, c'était voilà, vous avez fait un boulot qui vous plaît et que vous avez maintenant emmené avec vous en voyage. Donc, il y a un petit pilier ici. Vous avez le voyage et l'aventure qui sont des trucs qui vous plaisent. Et là, ce projet dont vous parlez de tourner des vidéos, je trouve que ça rajoute vraiment la dimension, on va dire. Il y a des personnes qui pourraient se dire, moi, j'ai envie de faire du volontariat ou d'être bénévole, enfin, de rajouter quelque chose comme on le ferait en tant que sédentaire, avoir son boulot et peut-être une activité bénévole ou un hobby à côté, mais enfin, un hobby... autre que le sport, c'est-à-dire là, vous avez un vrai projet quoi à côté.
C'est spécial.
Ouais, voilà. Bah, vous, c'est donc tourner autour de l'environnement, de la rencontre. Et puis, il y a le lien avec la vidéo. Peut-être que Mélanie, toi, tu avais peut-être envie de revenir à ça aussi, non? Un peu, de le réintégrer. Cet équilibre, est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre dès le début quand vous avez commencé à voyager, enfin il y a à peu près un an, ou est-ce que vous tâtonnez? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous vous sentez en équilibre? Parce que là, j'ai dit comment moi je vous voyais, mais peut-être que c'est différent de votre perspective.
Alors, l'équilibre au tout début de notre tour d'Europe, il était assez compliqué à trouver parce qu'on est parti dans des conditions un peu particulières. Et donc, quand on est arrivé dans les premiers pays, déjà, il faisait pas beau. C'était assez difficile de s'adapter. Mais on a très vite trouvé notre routine, notre équilibre, comment visiter les pays, comment bien arriver avec le van sans encombre, comment le garer, comment, parce qu'il y a quand même plein de logistiques en fait auxquelles on ne pense pas, on se dit bon, on s'en va, mais la routine vraiment de faire ses valises, son sac à dos tous les 15 jours pour se redéplacer, retrouver un logement, réemménager, c'est fatigant. Donc notre équilibre au début, il était assez fragile et puis au fur et à mesure, en fait, on était complètement
Rodé. Mais finalement, c'est plutôt
rodé.
de l'équilibre de voyage. Ça correspond pas à notre équilibre à nous deux
Ça, on
de
l'a jamais
travail, parce que
perdu,
ça, on l'avait déjà avant finalement. On travaillait déjà ensemble dans un appartement à Bordeaux, donc on avait déjà notre équilibre de travail, de vie. Mais comme on y a ajouté une composante voyage, c'est celle-là en fait qu'on a dû apprendre, appréhender. Effectivement, bon, c'est des trucs surtout techniques. Enfin. Qu'on ne connaissait pas, comment traverser les frontières sur lesquelles il y a des plus de contrôles, comment faire attention sur la route, comment échanger avec des gens qui ne parlent pas anglais ni français. Voilà,
Donc, les
c'est
2 premiers mois, un peu à tâtonner. Et en fait, après,
ouais.
dès qu'il a fait beau,
Et puis dès qu'il a fait
c'était
beau, ça fait peur.
parti. On était à fond. Par contre, pour bien répondre à ta question sur l'équilibre un peu plus général, alors quand on est rentré en France, on s'est rendu compte en fait qu'on avait un problème justement d'équilibre parce qu'on est rentré. Alors déjà, on est rentré chez mes parents, donc c'est super gentil à nous héberger et on était ravis de pouvoir retrouver la famille. Mais disons que ça a duré une semaine, quoi, parce que c'est quand même chez les parents et ça infantilise d'une certaine manière. Après avoir vécu un si beau voyage, c'est compliqué. Donc voilà. Après, donc on est resté 1 mois chez mes parents. Après, on a décidé donc de demander des apparts à droite à gauche aux amis. C'était très compliqué parce qu'on n'a pas tant de relations que ça dans toutes les régions de France. On connaît des gens un peu dans toutes les régions. Donc on a vraiment galéré pendant ces 3 mois pour trouver des logements et pour trouver un nid, en fait. Après ces 12 mois de voyage, on avait envie de revenir dans un nid qui était neutre et qui était à nous. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, waouh, on manque carrément, on pensait qu'on n'en manquait pas, mais en fait, on manque carrément d'un petit chez nous, même d'un 15 mètres carrés. Enfin, j'abuse, mais tu vois l'idée d'un truc où tu peux poser tes affaires et les ouvrir. Parce que là, on est rentré depuis 3 mois, les valises, elles sont toujours faites. Et là, on repart aux États-Unis, elles sont toujours faites. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on vit avec une valise. Et on adore ça, mais quand on rentre en France, ce qui est censé être la maison, en fait, on aimerait être à la maison. Et du coup, ça manque cruellement de pas avoir chez nous en
Et
France.
je pense que ceux qui sont van life à 100%, ils ont un peu moins ce problème parce que leur maison, ils la trimballent avec eux.
Exactement.
Alors nous, on a trimballé toutes nos affaires, mais comme on vivait pas à 100% dans notre van, ben quand
Ouais,
on est
c'est quand même
rentré,
nos
voilà,
racines.
on était, voilà, on allait chez des amis, chez de la famille. Alors on est content de voir tout le monde, mais c'est vrai que l'idée c'était de revenir pour se reposer pour pouvoir repartir. Et finalement, ces 3 mois, ça a été encore 3 mois
De vadrouille.
de vadrouille et
On a fait
de
trois régions
voyage, quoi.
différentes.
On a fait Lille, Paris
Et
et le
Haute-Savoie,
Sud-Ouest,
et
voilà,
Bordeaux, et Haute-Savoie.
on
Donc,
a Bordeaux
c'est
aussi.
toute la France, en fait.
Après, sur là, ce que tu viens de dire sur le van, je pense quand même que ça dépend des personnalités. Je pense que tout le monde ne serait pas forcément capable d'avoir toutes ses affaires dans un van.
C'est sûr.
Et de pas avoir une maison, je pense que c'est quand même différent. Le van, c'est quelque chose qui roule et on est quand même habitué à grandir dans des maisons. Donc, je pense que c'est normal que parfois, que certaines personnes aient besoin de revenir à ça. Après, voilà, on peut trouver différentes manières de l'avoir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont propriétaires d'un appartement et qui le louent quand elles ne sont pas là, ou qui sont locataires et le sous-louent quand elles ne sont pas là.
C'est le projet. Enfin, ce serait le projet.
Ce serait le projet.
Voilà. Prochain.
On ne sait pas, pas comment ça va se concrétiser, mais
on y a réfléchi. Du coup, on voulait investir dans longtemps. On s'est dit, bon, bah, tant qu'on voyage comme ça. On le fera un peu
besoin.
À l'arrache,
voilà, on voyage, on n'a pas besoin, mais
en fait, quand même.
On revient parce qu'on est quand même attaché à la famille et aux amis et on ne se voit pas.
On ne se voit pas plus du tout rentrer en France. Ouais. Et on peut nous louer en France, ou sous-louer en France, hein, c'est trop compliqué. Donc on aimerait, pourquoi pas, investir dans un bien et pouvoir le louer en BNB ou quelque chose comme ça. Ça, ce serait un bon équilibre pour le coup.
Ok. Est-ce qu'on peut aborder la question du voyage en couple? Donc, moi, c'est une des choses qui m'a intéressée quand vous m'avez contactée, c'est le fait de voyager à deux. Dans une autre interview, j'ai interviewé Sonia qui, elle, voyage avec son compagnon sur un voilier. C'est un autre profil. Vous, si j'ai bien compris, vous étiez déjà en couple et vous travailliez déjà ensemble avant de partir. Comment est-ce que vous voyez ça, le voyage en couple?
Nous, c'était notre moteur, en fait. Enfin, et principalement le mien. J'aurais pas autant voyagé si j'avais pas été avec Mélanie. Mélanie aurait peut-être moins entrepris si elle avait pas été avec moi. Et, en fait, on s'est retrouvés à mi-chemin. Et ce qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui, on l'aurait très certainement pas fait chacun de notre côté.
Pas de cette manière. Ça a été un moteur. Donc au quotidien ça se passe plutôt bien, comme on travaille déjà ensemble, donc on est quand on était à Bordeaux on était déjà habitués finalement à être H24 ensemble. C'est pas comme si on était dans une société et qu'on se voyait que 3 heures par jour. Là on se voyait déjà toute la journée, donc même en voyageant ensemble finalement, bon après je dis en voyageant ensemble, on s'installait un mois par-ci un mois par-là, donc c'est moins violent que ce qu'on va faire là. On te dira après les États-Unis si notre couple a tenu. C'est moins fatigant, mais
peut-être que la tante viendra.
Voilà, peut-être. Se jeter des poils au visage, je ne sais pas. On verra, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus fatigant ce mode de voyage. Mais nous, là, sur le mode de voyage qu'on a fait en Europe, c'était comme à la maison. En fait, il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas eu de différence dans notre couple non plus, et notre couple, il a toujours été, moteur, galvanisant.
Mais ça s'est passé comme on l'avait imaginé. On s'est dit, en fait, on va juste déplacer notre maison. On va garder la même vie, on va déplacer notre maison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La seule différence, c'est qu'entre deux maisons, il y avait des fois 3, 5 ou 6 heures de route.
Au mental, c'était que du plus. Après, comme tu disais justement tout à l'heure, le fait d'être en couple, peut-être que ça te... Enfin, ou d'être en groupe quand tu voyages, c'est peut-être... tu te tournes moins vers les autres. Donc ça, c'est un défaut qu'on a. Et on en a pris conscience quand on a rencontré des super personnes via les réseaux sociaux, tu vois, comme quoi il faut les réseaux sociaux pour se rendre compte de ça. Mais on s'est dit, mais on passe à côté de plein de choses, en fait, on ne veut plus. Et du coup, là, ça nous a ouvert les yeux pendant notre tour d'Europe. On s'est dit, non,
on rencontrera plus de personnes.
Arrêtons de nous enfermer. Voilà.
Et après, sinon, je pense que c'est un peu différent pour tous les couples. Sinon, les choses bêtes et un peu basiques, mais c'est avoir chacun... ces trucs, ces petits moments, c'est comme pour tout le monde. On a chacun nos activités quand on est en mode nomade. Voilà, on a chacun nos petits trucs qu'on aime faire seul. C'est tout bête. Et puis ça se déroule de la même manière que quand on est dans un appartement, dans une maison. Chacun fait son sport de son côté.
Se vide la tête, sa lecture, ses activités.
Donc c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre.
Ceci dit, vous êtes quand même, enfin, je pense que c'est quand même un autre niveau quand, en plus, tu travailles ensemble, parce que tu as des couples qui habitent ensemble, mais qui ne travaillent pas ensemble, donc tu as quand même toute la journée où tu ne vois pas.
On l'a résolu avant, au moment où on s'est lancé. On était tous les deux, au tout début, on était freelance chacun de son côté, en fait. On s'est dit, bon, mais en fait, on est freelance chacun de son côté, mais dans le même appartement, ça se passe bien. On s'est rendu compte qu'on avait des demandes qui étaient croisées de clients, donc on a travaillé ensemble finalement, et, ça c'est, il y a eu une petite période d'adaptation, mais on est assez fusionnel et de toute façon on a toujours passé beaucoup de temps ensemble et donc ça s'est bien passé comme mise en place.
Et au niveau de vos clients, est-ce que parfois vous avez des clients qui vous sont propres, qui n'ont pas forcément besoin de la partie web marketing ou de la partie créa?
Oui, ça peut arriver. Ça arrive souvent. D'accord.
Ça arrive souvent, mais on essaye de les tirer d'un côté ou de l'autre à chaque fois. Ouais. Pour notre bien financier, de toute façon, de leur proposer de nouvelles choses, c'est intéressant. Et puis, pour caser les trous que l'un peut avoir dans son agenda.
Et puis, c'est surtout que souvent, après, quand on parle juste, par exemple, je parle pour mon métier, mais quand on parle juste de créer une identité visuelle, etc., je ne vais pas forcément amener vers d'autres choses. Mais par contre, quand il s'agit d'un site internet, je vais bien sûr faire le design, mais je vais... grâce à lui, je connais tout cet aspect web marketing, je peux en parler, je connais l'importance et donc je vais bien entendu le vendre et surtout vanter les mérites parce que juste j'y crois en fait. Enfin, moi, faire un site internet juste pour qu'il soit là et qu'il existe, je trouve que ça sert à rien et du coup, il faut savoir bien le référencer, enfin bon, tout ce qui est propre au web marketing, mais je ne conseillerais jamais juste à quelqu'un de lancer une bouteille à la mer parce que c'est exactement ça. Créer un site internet de nos jours sans vraiment se pencher sur l'aspect web marketing, c'est jeter une bouteille à la mer.
Puis moi, pareil, quand mes clients me demandent des campagnes de publicité et qu'ils me fournissent des bannières qui ne sont pas belles,
je dis, n'est complémentaire.
Je leur dis, on peut peut-être faire quelque chose, il faut les refaire. Pareil, quand le site n'est pas bien fait, le site ne permettra pas d'atteindre les objectifs.
Quand ils ont des landing pages qui sont censées être attrayantes, qui ne sont pas du tout attrayantes, compliqué de faire son métier après.
Oui. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, sinon on a certains des clients qu'on travaille seul. Enfin, ça peut être
quand vraiment
clients,
ça s'y prête
mais
pas.
Mais ça nous arrive aussi d'avoir des clients qui ont commencé avec moi et qui après maintenant travaillent avec Mel ou l'inverse. Ça dépend des besoins des clients aussi.
D'accord. Dans le nomadisme digital, pour vous, c'est quoi? Ce sont quoi les avantages, les choses qui vous plaisent le plus?
Dans le nomadisme digital, la liberté, maintenant je te dirais la liberté de mouvement, le fait de pouvoir se déplacer et de pouvoir te réveiller à un endroit, un jour à tel endroit, un autre jour à un autre endroit, sans avoir de problématiques forcément financières, sans forcément te dire que tu vas devoir retourner à la normale, parce que c'est ta norme à toi. Ça, c'est quelque chose qui me passionne dans le nomadisme digital. Enfin, c'est vraiment c'est la liberté que ça procure, mais je pense à beaucoup après. Hein.
C'est vrai que tu vas retomber, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un aliment des deux mondes, nous deux. Et moi, ce qui me plaît le plus dans le nomadisme digital, c'est plus le digital et l'entrepreneuriat.
Ah oui, tu vois, c'est, on a des.
mais c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire ce
qu'on veut. Quand on s'est connus, je voulais déjà faire le tour du monde.
Voilà, et moi, je
voulais entreprendre et monter une boîte.
C'est
bien,
c'est un genre de chemin. Et elle m'a tiré de son côté, j'ai tiré du mien, et aujourd'hui, moi aussi, je suis. Ultra satisfait et heureux de voyager, de voir plein de choses et de découvrir toujours plus notre monde. Je ne pensais pas voyager autant dans ma vie, ça ne faisait pas partie de mes priorités. Je voulais voyager, mais voyager plus basiquement, partir 15 jours par an, voir une île ou l'eau turquoise. Et je me suis rendu compte avec ce voyage et les voyages que je fais depuis qu'on est ensemble qu'il y a plein d'autres choses qui sont cool et voire même souvent plus cool, de voir comment vivent les gens. De voir comment ça se passe ailleurs, réellement, et pas juste de prendre des photos de mer transparente. Ça me satisfait.
Je l'ai amené sur le côté un peu plus roots.
Okay. Du coup, l'autre côté, pour vous, qu'est-ce qui est difficile dans cette manière de vivre?
L'insécurité.
Je
pense que ça a été le questionnement longtemps. Mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais on a eu une période où,
sur le côté freelance, c'est l'insécurité, c'est mais sur le côté nomade, c'est le fait de ne pas avoir de nid, de ne pas avoir de chez soi.
C'est ça. Mais c'était la question de est-ce que ça peut durer, est-ce que ça va toujours marcher, est-ce qu'on n'aura pas des problèmes financiers, ou est-ce que le mois prochain c'est toujours possible. Et on a résolu ce problème finalement en se lançant, surtout en société, j'ai l'impression, quand on était tous les deux. et qu'on a eu peut-être plus de clients, des rentrées d'argent un peu plus régulières. Et on a eu surtout une période, c'est toujours le cas, avec beaucoup de demandes. Et ça
oui,
nous a,
c'est plutôt rassurant.
Ça a été beaucoup, beaucoup plus rassurant. Mais sinon, le vrai problème, c'est de ne pas avoir de chez nous quoi, aujourd'hui.
Ça reste, oui, ça ne nous pose pas de problème. Enfin, ça nous... On est content de ne pas avoir de plan d'attache, autant que parfois, on en manque. Enfin, c'est très contradictoire ce que je dis, mais c'est qu'on a vraiment, deux côtés, quoi. On est content de pouvoir voyager, de se dire que partout, c'est chez nous, mais ça, c'est dur parfois aussi, de ne pas avoir de point d'attache et de nid. Après, pas tous les jours, heureusement, sinon on ne le ferait pas. Mais parfois, ça revient.
Donc, non, pas trop d'inconvénients. C'est pour ça qu'on continue aussi. Hein. C'est pour ça qu'on se projette sur de nouveaux voyages, parce qu'on n'a pas pour l'instant trouvé nos limites dans ce mode de vie. Je sais pas si ça te satisfait comme réponse.
Si, bah j'interviens pas volontairement parce que je préfère vraiment avoir votre point de vue, parce que moi personnellement j'en ai rencontré plus que vous des difficultés visiblement. mais voilà, c'est comme je le répète souvent, moi c'est des difficultés que je suis contente d'avoir. J'échangerai pas. Je pense qu'il y a toujours des difficultés dans une situation. C'est après ça dépend. Quelles difficultés on a envie d'avoir dans son quotidien, elles ne sont pas forcément dérangeantes.
On en entend pas mal aussi des difficultés. On a aussi beaucoup d'échanges avec d'autres nomades qui sont aujourd'hui pas encore freelance ou entrepreneurs et qui nous demandent comment venir sur ce terrain. Et je pense qu'on a eu moins de difficultés, en tout cas juste sur la partie digital nomade, c'est-à-dire le voyage l'année dernière. Mais parce qu'en fait, les difficultés, on les a eues au tout début, avant.
Exactement.
Sur la partie travail. Donc, on les a résolues un peu au long cours.
Si tu m'avais demandé voilà, les difficultés que j'ai eues quand je me suis lancée en freelance, ouais. La réponse aurait été tout autre que celle que je t'avance ouais. Maintenant.
Je pense que faire les deux en
comme ça,
ensemble
c'est déjà 5
coup,
ans qu'on travaillait en freelance, en fait. Là, sur ça, on est bien installé, on est confiant. Sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Au contraire, on cherche toujours à aller plus loin, mais à prendre plus de risques parce que c'est notre mentalité. C'est la mentalité un peu d'entrepreneur. On veut faire plein de choses, voir ce qui marche. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais donc oui, il y a eu des difficultés, mais comme elles sont lissées sur quand même plusieurs années et pas juste uniquement sur le moment où on est parti et on a décidé de voyager en travaillant. Finalement, on les ressent moins. On a moins l'impression d'avoir une montagne de choses à gérer, comme effectivement tu sembles le dire, et comme beaucoup d'autres digital nomades.
Ouais, je pense qu'effectivement, quand on se lance, enfin le début est toujours plus difficile parce que tu découvres. Voilà, il y a pas mal de choses à dépasser chaque jour, et quand tu rajoutes en plus la dimension voyage, tu rajoutes, on va dire, les problèmes techniques, de fatigue du voyage qui viennent pas forcément t'aider sur le reste. Voilà, moi je suis rentrée en France en me disant bah j'ai adoré mes 8 mois. Par contre, je pense que voyager de cette manière avec cette communauté, c'est plus pour des gens plus établis. Parce que moi, il y a un moment, j'avais besoin d'être toute seule pour me reconcentrer vraiment sur le lancement et le décollage, on va dire, du projet.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je te rejoins. Commencer les deux en même temps, ça doit être épuisant, un peu épuisant. Parce que honnêtement, quand je revois les débuts de notre voyage, là, de notre nomadisme, donc je te dis, en Europe, on était les 2 premiers mois, ils ont été difficiles, on a eu du mal à trouver notre rythme, on était hyper fatigués, on se demandait si ça allait marcher, en fait, ce mode de vie. On a eu pas mal de remises en question, puis finalement, ça a roulé après tout seul pendant 10 mois, donc tant mieux. Mais si on avait dû conjuguer à ça avec l'aspect début de notre vie de freelance.
De projet pro.
Ouais, non, là,
oui, parce que ça aurait pu être autre chose. Mais ouais, n'importe quel projet pro en même temps que la découverte du monde, entre guillemets, c'est pas facile.
C'est dur. Le lancement, c'est dur. En tout cas, je pense qu'en effet, il faut se mettre au calme. Et bien, d'ailleurs, on m'a souvent demandé comment devenir digital nomade. Et moi, je réponds, devenez d'abord digital et on verra pour le nomade après. Quoi. Parce que tout faire en même temps, il faut avoir vraiment, enfin déjà pour faire les deux, il faut avoir les épaules, mais pour tout faire en même temps, il faut vraiment
Et après, en fonction des métiers, ça peut prendre plus ou moins de temps. Hein. Oui, je pense que quelqu'un qui est embauché dans une entreprise et qui négocie un télétravail, c'est beaucoup plus facile et rapide de mettre en place le digital nomadisme parce que bon, bah, y a la sécurité de l'emploi d'une certaine manière. Le mode de travail est le même. Il faut juste adapter ses horaires. Mais il y a différents niveaux. Et je pense que oui, quand tu as un projet comme le tien, avec un projet à lancer entièrement, bah, finalement, oui, voyager en même temps, c'est compliqué.
Après, je pense que tu peux aussi jouer sur la fréquence, te dire, bah, parce que moi, personnellement, vous m'auriez dit, non, il ne faut pas partir quand tu débutes. Je vous aurais claqué la porte au nez, j'aurais dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. et je serais partie quand même. Mais après, bon, moi, je suis partie moi. On peut aussi partir un mois. Tu peux partir un mois, tu peux partir en Europe au lieu de partir en Amérique latine. Donc voilà, il y a des moyens de quand même enlever ta frustration parce que tu as envie de voyager, tout en revenant après au calme faire ton projet, quoi.
Complètement. Et puis non, mais aussi, c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible.
Non, mais c'est ça. Il faut juste avoir les outils pour le faire.
Il faut juste s'en sentir capable et adapter, comme tu le dis, tu vois, la fréquence, tu vois, tu t'adaptes sur le moment en fonction de ce que tu es capable de produire en termes de visite ou en termes de travail.
Dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes? Alors en fait, c'est une dernière question, conseil, mais qui se divise en deux. Quel conseil, pour commencer, vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans vos métiers respectifs?
Tu veux répondre?
Je vais commencer. Moi, c'est la soif d'apprendre, clairement. Si on se sent pas capable d'apprendre et de nouvelles choses un peu tous les jours ou au long cours, ça va être assez difficile. Et donc, une fois qu'on est sûr de ça, qu'on en est capable, bah, c'est d'être ultra curieux et de continuellement proposer des choses, que ce soit des clients ou des prospects dont on n'est pas certain de pouvoir mener à terme. Je mets un peu des guillemets parce que il faut pas non plus, je ne vends pas des pots de peinture, enfin, je ne vends pas de la peinture ou des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais, mais j'hésite pas à m'avancer un peu sur mes services ou sur les possibilités pour me pousser à apprendre, à continuellement apprendre de nouvelles techniques et me former. Voilà, moi, c'est clairement mon conseil numéro un.
C'est ta spécialité, ça.
Non, mais être la soie d'apprendre. Ne pas hésiter. Bon, et puis après, un esprit un peu logique. Le web marketing, c'est beaucoup d'analyse de chiffres. Voilà, il faut avoir un peu ce côté-là, accepter qu'il y aura pas mal de chiffres à analyser. Et après, il y a une dernière composante qui est pour nous deux, c'est pour l'entrepreneuriat, c'est la gestion et la relation client. C'est pas toujours simple au début. Je sais que moi, c'était vraiment pas mon truc. Et il faut être un peu à l'aise, quoi. Être un peu à l'aise avec les gens. Et ça passera beaucoup mieux, que ce soit pour vendre ses services, ou pour justifier de résultats, ou pour continuer une relation professionnelle. Voilà, on est digital nomade, c'est un monde un peu Teletubbies tout beau tout rose. Ça n'empêche qu'il y a quand même des clients qui ont des besoins particuliers de résultats et qui ont des attentes. Et il faut savoir gérer cette relation commerciale, en particulier dans le digital nomadisme. On est loin, il faut savoir caler les horaires, il faut savoir... se caler avec les attentes du client, avec le rythme, et ne pas se laisser déborder. Voilà, il y a certains clients qui peuvent avoir l'habitude de vous appeler très régulièrement. C'est aussi, ça fait partie de la relation client, de savoir poser des limites pour le bien de tous, en plus. Voilà.
Moi, pour ma partie, j'irais d'abord qu'il faut avoir la fibre artistique, le ressentir. Sans parler toujours du talent, parce que ça déjà c'est très subjectif et ça peut être perçu de plein de manières, mais déjà sentir qu'on a quelque chose à exprimer, qu'on a envie de s'exprimer créativement parlant, et une fois qu'on a senti ça, commencer par des petites missions Après, je parle pour les gens qui me ressemblent plus parce que c'est ce que je connais, mais pour les gens qui n'ont pas spécialement confiance en eux, c'est bien de commencer par des petites missions, par l'entourage ou par des typologies de clients un peu petits, avec qui il y aura plus de dialogue qu'avec une grosse structure, il y aura plus ses formateurs aussi. Donc voilà, de commencer petit, au fur et à mesure de se faire la main et de voir plus gros à ce moment-là, en fait, quand on prend confiance en soi. Donc voilà, de commencer petit et de s'adapter après pour faire des plus gros projets et monter en compétences aussi. Parce que comme Ben, au début, je suis partie avec un panel de compétences assez restreint. Et au fur et à mesure, je n'ai pas hésité à acquérir d'autres compétences et à les vendre. Et encore aujourd'hui, j'espère que dans 5 ans, on en reparlera et je pourrai te dire que maintenant, je veux proposer ci ou ça parce que la même chose que lui, je n'arrête pas d'apprendre, pas autant, parce qu'il n'y a peut-être pas autant à apprendre dans mon domaine, dans la création, mais n'empêche qu'il faut toujours savoir se renouveler. Et un autre conseil aussi que je pourrais donner, même si au début on commence assez large pour trouver un peu ce qu'on veut faire, surtout quand on commence à regarder les métiers du web, je vois des gens qui veulent devenir blogueurs, slash graphiste, community manager, plein de choses comme ça. Et c'est bien de commencer large, si on veut, on ratisse large parce qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire, comme ça on voit ce qui nous plaît, etc. C'est bien. Mais pour vraiment avoir tes clients, tes premiers clients
et être reconnu,
c'est pas la meilleure solution. Donc dans un premier temps, c'est bien. Mais après, très vite, je conseille quand même de se spécialiser. Alors, pas de s'ultra spécialiser, mais en fait, ça donne confiance simplement d'avoir une spécialité. Ça donne confiance. Les gens ont beaucoup plus confiance en quelqu'un qui a une spécificité, qui est expert dans son domaine, que quelqu'un qui est très généraliste, ce qui est humain de toute façon. Donc, je leur conseillerais de se spécialiser, alors pas forcément de prendre une niche très restreinte parce qu'après ça peut aussi devenir compliqué, c'est à double tranchant, si on prend un truc trop restreint là on n'a plus du tout de clients, mais ratisser large et puis au fur et à mesure de se spécialiser s'ils peuvent, c'est bien, ils auront plus de clients, plus de reconnaissance, plus d'expertise, je pense que c'est pas mal, voilà.
Ok, merci pour ces conseils. Ça m'a juste fait penser à une question, donc je mets une petite parenthèse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous trouvez des clients ? C'est aussi une question que j'ai souvent et surtout une des plus grandes peurs des personnes qui pensent se lancer en freelance.
Mais nous, on est sur les plateformes de freelance type Malt, anciennement Upwork. On a commencé sur cette plateforme et ça a bien marché dès le début. Alors maintenant, elle est beaucoup plus connue, donc peut-être que ça marche un peu moins bien. Mais en tout cas, à l'époque, nous, c'était vraiment... je dirais que ça fait 10 ans, mais c'était vraiment avec les plateformes de freelance. On a vraiment débuté par là. Maintenant, on s'en sert plus, simplement parce qu'on a... On a pas mal de clients et on se fait recommander à chaque fois de client en client. Et on a plus le temps de démarcher, on n'a plus le temps d'accepter non plus de nouveaux projets. Et les missions arrivent d'elles-mêmes, on va dire qu'elles se superposent naturellement, elles s'enchaînent naturellement. Donc voilà, mais pour trouver les premiers clients, les plateformes.
Avoir un petit réseau, c'est toujours bien. Ne pas hésiter à sortir. Les espaces de coworking, on trouve facilement des prospects, des gens qui recherchent d'autres compétences. Ça rejoint ce que disait Mélanie tout à l'heure. La spécialisation, c'était toujours bien. Savoir faire quelque chose de particulier très bien, ça aide à se vendre. On se sent plus à l'aise. Et puis, c'est ce que les gens recherchent souvent quand ils ont une problématique. Si on est capable de leur proposer une réponse simple, efficace, c'est beaucoup plus simple d'en faire un client. Et puis sinon, après, c'est avoir sa tête, enfin, son, son, sa visibilité propre en fait. Les réseaux c'est bien, mais avoir un petit site web ou au moins un portfolio, être présent sur les réseaux de travail,
mais comme LinkedIn et Viadio, en fait.
Faire un peu sa propre com.
Il faut pas hésiter à faire sa propre com.
Et après, c'est ce que disait Mel tout à l'heure, c'est débuter un peu plus petit, accepter des jobs sur lesquels
se faire la main,
qui sont peut-être un peu moins bien payés. En revanche, on va jamais vous dire de travailler pour gratuit ou de travailler pour pas cher du tout.
On a du mal avec ça.
Mais au début, c'est normal. On accepte des choses qui sont peut-être un peu moins dans ses envies. Et ça permet de monter en compétences et d'être rassuré.
Et trouver les premiers clients et de commencer ainsi à se créer un petit réseau. Le fait de trouver ses premières missions sur les plateformes de freelancing, ça te fait des avis, ça te fait des étoiles, ça te fait des avis sur ton site internet ou des avis sur ton Facebook. Et en fait, c'est comme ça que les gens qui sont reconnus pour ce qu'ils font, en fait, ils donnent toujours plus envie que ceux qui passent un peu inaperçus. Et du coup, il ne faut pas hésiter à jouer avec ça, en fait.
Après, il y a d'autres méthodes que nous, on n'a pas expérimentées, mais c'est vrai que sinon, le démarchage un peu plus fort…
On s'est dit pendant un moment qu'on allait le tester à Bordeaux, aller distribuer nos cartes, etc. Et on conseille, par exemple, on avait une vie de quartier très animée, alors pourquoi pas aller distribuer des cartes de visite dans toute la rue pour créer des sites internet aux commerçants. Et honnêtement, c'est une piste aussi. Enfin, il n'y a pas de mauvaise méthode. De toute façon, il n'y a que des bonnes méthodes, puisque si vous trouvez le projet, c'est que vous avez fait la bonne méthode. Vraiment, actionnez tous les leviers. Ne pas hésiter. Il faut être à fond, de toute façon. Quand on
montre et pas se décourager, parce qu'il y a un besoin énorme de freelancing, surtout dans le digital. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais d'ici 2020, apparemment, il n'y aura pas assez de freelance par rapport au volume de demandes.
Sans compter la concurrence étrangère, la concurrence parfois déloyale étrangère. Du coup,
c'est un autre sujet. Ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de demandes en France. On le voit sur les plateformes. Nous, quand on active, quand on les réactive les profils, on a des demandes régulières. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on désactive parce qu'on ne pourrait pas les traiter, mais il y a de la demande. Donc, ne pas hésiter à se lancer et à s'accrocher un peu, c'est sûr.
Il faut
pas s'attendre à très bien gagner sa vie en 3 mois, surtout si on est plutôt un profil junior. Ça sera un peu plus dur. Il faut se donner le temps.
J'ai une autre question parenthèse qui est liée. C'est comment est-ce que vous avez établi vos prix au début ?
Par rapport aux autres, principalement au départ, tout en prenant en compte ce qu'on voulait accepter. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On a beau sur ces plateformes, on indique son taux horaire journalier, donc le TJM. Une fois qu'on l'a établi, surtout par rapport à la concurrence, nous on était juniors, donc on regardait les juniors combien ils facturaient, on s'est établi comme ça. Puis après,
on regardait en fonction de leur expérience. Ouais.
Et lorsqu'on rentre en discussion avec le prospect, il y a la phase de devisage où là on fait le devis et finalement on s'est vite rendu compte que le taux journalier qu'on avait affiché correspondait pas réellement au devis parce que pour faire signer le client on avait un peu baissé ou on avait sous-estimé le temps qu'on allait passer.
Honnêtement, les prix s'adaptent tout le temps en fait. Ouais. Enfin, tout le temps, souvent en tout cas la première année ou les 2 premières années ou même encore maintenant.
Il y a la négociation aussi avec le
client. Ils s'adaptent tout le temps, ouais. Des fois, enfin surtout moi, je mettais un tarif peut-être trop bas comparé au temps que je passais, donc je me sentais lésée ou.
Pas travailler comme ça. On s'en est rendu compte.
Mais voilà, mais du coup, c'est en faisant aussi qu'on. C'est pour ça que je vais te répéter ça tout au long de l'interview. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Mais c'est vrai, en fait. Parce que moi, je n'étais pas spécialement faite pour être entrepreneuse ou je ne sais pas quoi. Mais en faisant, en fait, on apprend tout. Fixer ses tarifs, au début, tu fixes soit un truc trop bas. Et puis après, tu ajustes, en fait. Tu ajustes parce qu'il ne faut jamais avoir l'impression d'arnaquer le client ou d'être un usurpateur ou d'être un imposteur et de vendre des trucs vraiment trop cher pour ce que c'est. Et à contrario, il ne faut pas à la fin de la mission t'être senti lésé ou te dire ah là, il m'a vraiment bien eu. Quoi. J'ai travaillé, je ne sais pas combien d'heures pour lui et j'ai gagné peanuts. Ça, ce n'est pas bon non plus. Donc voilà, en fait, quand tu sauras que tu as trouvé le prix juste, c'est quand tu te sentiras bien à la fin de ton mission. Quand tu te sentiras épanoui.
Mais donc au fil des années, le taux journalier augmente. Clairement, il va plutôt à la hausse.
Oui, parce que ton expérience est pas.
Mais parce que l'expérience augmente et aussi parce que quand on accepte des projets, maintenant, on les cadre mieux.
On se rend compte de la quantité de travail.
On sait combien de temps on va y passer.
Avant, on avait tendance, moi surtout, à sous-estimer ma quantité de travail. Maintenant, même en parlant pas du taux horaire, mais justement en parlant du nombre d'heures, je disais, oh, bah, ça, j'en ai pour 2 heures. Non, en fait,
il y en a pour 2 heures au début, mais après, il y a le client qui en parle.
Il y en a pour 2 heures de travail effectif, mais si tu comptes en fait les retours des clients, ses exigences, les mails, les échanges par mail que tu vas avoir, les échanges par mail que tu as eu en amont avec lui ou au téléphone, le conseil aussi par téléphone, parce qu'il y en a, ça fait partie de notre mission de freelance de les aiguiller sur tous les points et sur toutes leurs questions. Donc quand ils sont au téléphone pour un point, souvent, en fait, ils dérivent sur oui, puis j'ai aussi ça, puis aussi ça, puis j'ai lancé ça, puis ça marche pas trop, comment faire ? En fait, on est aussi dans le conseil, on a une mission de consultant. Et ça, faut pas hésiter à le facturer quand on sent que ça a lieu. Faut le compter dans tout ça. Et j'ai même d'autres freelances qui vont plus loin et qui disaient que dans leur taux horaire, il fallait aussi compter des choses auxquelles moi je ne pensais pas du tout, mais par exemple au fait que nous on n'a pas de retraite, donc je sais pas, prendre en compte la retraite, prendre en compte les congés maladie, que nous on n'a pas si on tombe malade, prendre en compte les congés payés, enfin tout.
Le temps de prospection, non mais si, il faut l'inclure. Parce que quand on indique son taux horaire journalier, je ne sais pas, si on prend 200 € par jour, il y a 20 jours travaillés, ça fait 4 000 € par mois, les gens vont se dire c'est énorme, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. On ne travaille pas ces 20 jours facturés. Dans ces 20 jours, il y en a peut-être déjà 30%, surtout au démarrage, ou même 50% qui sont liés à la prospection. Et ce travail-là, il n'est pas payé. Il n'y a personne qui vous le paye. Donc, il faut le remettre quelque part.
Il faut l'enveloppe pour s'y retrouver et pour pouvoir...
Les congés payés, les 5 semaines en tant que freelance, on ne les a pas. Donc, ces semaines-là, il faut se les payer aussi d'une autre manière. Bon, nous, c'est différent. Maintenant, on est digital nomade, donc on voyage. Donc
mais on n'a pas de vacances.
Mais on n'a pas de vacances non plus, c'est vrai. Là, sur les... les 18 ou 20 derniers mois, on n'a pas pris de vacances. Il n'y a pas eu une semaine ou une journée de non-travail. Enfin, si, il y a des week-ends, voilà. Mais,
on n'a pas de vraie période.
On est sur un rythme de travail.
Voilà, on dérive carrément de la question. Mais...
non, mais c'est intéressant. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup la leçon à retenir de vos différentes réponses là sur la fin, qui est que... par rapport à la peur de trouver des clients, d'établir un mauvais prix, en fait, faut commencer d'une manière ou d'une autre et de là, à partir de là, améliorer et puis tâtonner, trouver ce qui marche mieux, etc. Donc, j'aime beaucoup l'idée parce que je pense que ça enlève quand même pas mal de pression de raisonner comme ça.
Vraiment, il y a deux choses à retenir quand tu veux devenir... Enfin, deux difficultés majeures, c'est se lancer. Et pas se décourager.
C'est le cas dans beaucoup de choses. Après, passer de 0
si
à 1.
Si tu passes ces deux caps, et si tu arrives à faire ça, c'est bon. Tu pourras avoir la vie de digital nomade.
Le plus dur, c'est peut-être le premier client. Une fois que c'est fait, après, et qu'on se sent plus à l'aise, ça va mieux.
Et donc, la dernière question, donc je referme la parenthèse, trouver des clients et prix. Quel conseil est-ce que vous donneriez à des personnes qui veulent devenir digital nomade ? Peu importe le métier, vraiment sur l'aspect travail-voyage.
De trouver un bon équilibre. C'est sûr que pas forcément partir avec un bon équilibre, parce que avant d'être parti, on ne peut pas vraiment savoir ce dont on a besoin, mais de rapidement le trouver pour ne pas se sentir sans point d'attache, sans équilibre, c'est important. Pour moi, c'est vraiment le conseil numéro 1, trouver votre bon équilibre.
Ouais. Moi, ce serait plutôt d'accepter que tout ne se passe pas comme prévu. C'est un peu...
Oui, ne pas être psychorigide.
Ouais, donc, quand on est... Enfin, être trop droit dans le digital nomadisme, c'est impossible. Quoi. Enfin, si on veut exactement avoir 1 450 € tous les mois, faire tant de kilomètres, voir tant de choses, c'est pas fait pour vous. C'est pas possible.
Il faut, j'ai lu un truc ce matin, je crois que c'est Mike Horn qui disait ça, donc attention. Il faut, quand on part en voyage, il faut savoir partir avec 5% des réponses à nos questions. Si on veut 95% de réponses à nos questions, on part pas.
C'est qu'on n'a pas besoin de.
C'est que vous partirez jamais.
Voilà. Oui. Faut accepter qu'il y a des choses qui vont se résoudre pendant le.
Et de pas de hasard, mais de
pendant l'aventure.
Faire sur le tas. Ouais.
Alors ça, je trouve que c'est d'autant plus vrai pour l'entrepreneuriat que pour la partie voyage. Je sais pas si c'était sur la partie voyage que tu le disais, mais.
Bah, c'est que c'est lié, quoi, forcément. Enfin, quand on est digital nomade, ça rajoute, il y a double pression, quoi. D'un côté, on est loin de chez soi, on n'a pas accès forcément à toutes les choses auxquelles on est habitué en France. Ça dépend des pays, mais voilà, il y a quand même des pressions liées à l'hygiène, la maladie, enfin, c'est bête, mais c'est aussi des choses qu'on prend en compte quand on voyage. Ça rajoute de la pression, la gestion des clients, le fait qu'on ne soit pas sur le même fuseau horaire si on est loin. Oui, il y a plein de petits imprévus et il faut accepter de composer avec.
D'être en surmenage perpétuel. Ouais. D'avoir le cerveau qui tourne tout le temps. Ça, c'est sûr que...
Bon, ça, je pense que c'est évitable en prenant des vacances, quoi. C'est vrai. Là, sur le accepter d'être en surmenage perpétuel, je ne peux pas dire que je suis d'accord. Mais disons plutôt que c'est potentiellement un risque et qu'il faut trouver un moyen de ne pas exploser à un moment.
En plein vol.
Je voulais juste vous demander aussi si vous voulez rajouter un petit mot sur votre site The Wandering Freelancers. Est-ce que vous voulez expliquer un peu ce que vous mettez dessus?
Mais on met dessus, alors au début on mettait beaucoup, enfin on essayait de mettre beaucoup d'expériences de voyage. On voulait relater notre tour d'Europe parce qu'on aimait bien écrire, ça nous permettait aussi de poser nos ressentis sur papier et de faire une sorte de thérapie par écrit. Mais de plus en plus, en fait, les gens nous ont posé plein de questions sur les réseaux dès le début, en fait, en comprenant qu'on était freelance. Et donc, on répondait au cas, par message privé. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on commence à écrire des conseils pour les gens qui veulent se lancer en freelance, pour les gens qui veulent être digital nomades, ou pour le... Enfin, donc, surtout, maintenant, on essaie de se positionner sur la partie freelancing parce qu'il y a énormément de gens qui nous demandent des conseils. Ce que tu viens de nous demander, comment se lancer.
Et on se sent aussi un peu plus légitime, quoi, parce que finalement, on est travailleur dans le numérique depuis plus longtemps qu'on est voyageur. Et donc, on a déjà résolu pas mal de questions. Quoi. On a déjà éludé pas mal de choses et on sait peut-être plus facilement répondre. Et aussi sur le voyage, on n'est pas assez... On n'est pas assez rigoureux, on note pas tout ce qu'on fait, on profite plus.
Des blogs voyage, on a déjà énormément très bien fait et je ne me voyais pas devenir le guide du routard. Et puis on n'en a aucune envie. On a essayé de faire des articles comme ça, un peu conseil, mais non, on va plus parler de ce qu'on sait, donc à savoir nos vies de digital nomade. Voilà.
Génial. Merci pour cette dernière réponse. Merci pour toutes les autres réponses. On va du coup terminer cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un dernier mot?
Ben, merci beaucoup.
Merci d'avoir pris le temps.
Exactement. Ben, merci à vous.
Ton blog est toujours utile, toujours très utile.
Ben oui, parce que toi aussi, tu réponds à plein de questions. Et je pense qu'il y a plein de gens qui... De toute façon, tu en reçois beaucoup des questions, mais déjà rien que dans tes articles, si on fouille un peu, on peut déjà se rassurer beaucoup sur cette vie-là.
Cool, ben, merci pour ce dernier petit mot. Merci à tous ceux qui ont regardé.